Merci d'être avec nous sur RFI, le point sur l'actualité en direct de Paris où il est minuit.
Mathis Limano.
Et à la une, les États-Unis et Israël sur la même longueur d'onde quant à l'avenir de la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé Marco Rubio ce dimanche depuis Jérusalem, où il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ont menacé le Hamas d'une nouvelle guerre sans libération des otages. Une délégation israélienne est en route pour l'Égypte afin d'entamer les négociations de la deuxième phase de la trêve. Marco Rubio, lui, poursuit sa tournée dans la région en Arabie Saoudite. Des négociateurs envoyés par Moscou l'y attendent. Écartés des négociations de paix, les principaux pays européens se réunissent, eux, à Paris ce lundi. Une dizaine de dirigeants autour de la table pour échanger sur l'Ukraine et la sécurité en Europe. Et puis en Russie, ils étaient des centaines réunis ce dimanche, malgré les risques, devant la tombe d'Alexei Navalny, le principal opposant au Kremlin, est mort il y a un an dans sa cellule. Le secrétaire d'État américain à la manœuvre, donc. Première tournée au Moyen-Orient pour Marco Rubio, qui a débuté en Israël. L'occasion de réitérer le soutien indéfectible des États-Unis. Les deux pays ont une stratégie commune, a assuré Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a dit partager la vision audacieuse de Donald Trump pour Gaza, à savoir une prise de contrôle de l'enclave par les États-Unis. Au même moment, on apprenait qu'une importante livraison d'armes lourdes était arrivée la nuit dernière en provenance des États-Unis. Information communiquée par le ministre israélien de la Défense, Muriel Paradon.
Le ministère de la Défense israélien a envoyé à la presse internationale des images de nuit sur lesquelles on peut voir des conteneurs débarqués d'un bateau et chargés sur des camions. Cela se passe, nous dit-on, au port d'Ashdod, à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. Ces cargaisons contiennent des bombes lourdes de type MK-84, selon le ministère. Des bombes à fragmentation particulièrement destructrices, elles sont soupçonnées d'être à l'origine des dégâts considérables à Gaza et du nombre très élevé de victimes. Plus de 48 000 morts, en majorité des civils. Joe Biden avait suspendu la livraison des bombes lourdes, mais depuis, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Il a approuvé début février une vente d'armes à Israël pour un montant de 7,4 milliards de dollars. En communiquant sur cette livraison aujourd'hui des bombes MK-84, l'État hébreu envoie un double message. Le soutien des États-Unis est indéfectible et c'est un avertissement au Hamas, alors que la trêve reste fragile à Gaza. La guerre peut reprendre à tout moment.
Israël ouvrira, je cite, les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Les termes de Benjamin Netanyahou lors d'un point presse avec Marco Rubio. Les deux dirigeants ont également mis en garde l'Iran, principale source d'instabilité dans la région, selon eux. Par ailleurs, Israël réunit son cabinet de sécurité ce lundi et envoie des négociateurs en Égypte afin d'entamer les négociations de la deuxième phase de l'accord de trêve. Et alors que le soutien américain à Israël semble infaillible en Europe, on s'interroge, les États-Unis sont-ils encore des alliés? Rien n'est moins sûr depuis l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine et les signaux envoyés par Washington souhaitant résoudre le conflit en Ukraine en tête-à-tête avec Moscou. Des tensions entre Américains et Européens de plus en plus palpables donc, notamment lors de la clôture de la conférence sur la sécurité hier en Allemagne. Cette conférence pourrait d'ailleurs marquer le début de la fin de cette relation, estime Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales et de sécurité.
Quand on voit ce que les États-Unis préparent en Ukraine, c'est-à-dire concrètement un abandon total du pays et de toute garantie de sécurité, on peut se poser la question si les États-Unis sont encore notre allié. Aujourd'hui, la position américaine est une position qui porte véritablement la guerre, parce qu'on sait que tout accord de paix avec Poutine dans les conditions présentes annoncerait une guerre future en Europe encore plus vaste, plus étendue et plus meurtrière. Donc aujourd'hui, c'est un vrai défi pour l'Europe. Est-ce que l'Europe va se tenir prête à agir en faveur de l'Ukraine et bien sûr en termes de renforcement de sa propre défense, et il faut aller vite et fort, si j'ose dire, ou bien est-ce que l'Europe va à nouveau regarder passer les trains et ne pas être à la hauteur de la tâche historique qui l'attend?
Le spécialiste des questions internationales et de sécurité Nicolas Tenzer, joint par Romain Lemaresquier. Et alors que les cartes sont rebattues donc entre les États-Unis et l'Europe, une dizaine de dirigeants européens se donnent rendez-vous ce lundi à Paris. Réunion informelle sur la sécurité européenne et l'Ukraine, informe le ministre français des Affaires étrangères. Dans le même temps, des négociateurs russes sont attendus en Arabie Saoudite ce lundi, tout comme le secrétaire d'État américain et son équipe. L'envoi d'une délégation ukrainienne reste nouvelles incertaines. Par ailleurs, en Russie, ce dimanche marquait le premier anniversaire de la mort d'Alexeï Navalny. Il y a un an, le principal opposant au Kremlin mourait dans une colonie pénitentiaire. Ce dimanche, plusieurs centaines de ses partisans se sont recueillis sur sa tombe à Moscou, malgré le risque de représailles judiciaires et une très forte présence policière. Anissa El Jabri.
9h, les cloches de l'église toute proche sonnent, les portes du cimetière Borisovskoïe dans l'est de Moscou vont s'ouvrir, les voitures aux plaques diplomatiques des ambassadeurs européens sont là, les premiers moscovites souhaitant rendre hommage à Alexeï Navalny aussi. Qui est en train de nous photographier, demande une femme qui finit par décliner l'interview. Très tôt ce matin, la présence policière en civil jusque sur la tombe de l'opposant se faisait pesante. Certains venus rendre hommage sont d'ailleurs masqués, d'autres cachent jusqu'au dernier moment leurs fleurs dans leur sac ou fuient à la vue d'un micro.
Je vis en Russie et j'ai peur. Nous avons tous peur de Vladimir Poutine et de son régime.
Mais pas tous.
Je ne crois pas prendre un risque. Quel crime on commettrait en allant juste déposer des fleurs au cimetière? La police est là? Formidable, on va lui sourire.
C'est le week-end le plus glacial de l'hiver moscovite et certains sont venus seuls, d'autres en groupe.
On est venu à la fois chercher du réconfort et envoyer un message, se rappeler de lui aussi. C'est quelqu'un qui nous est proche, comme un parent. Pour moi, il est mort à cause de nous, parce que nous n'avons pas su le protéger et je me sens coupable.
Moi, je voulais montrer que son travail est toujours actuel et que tout ce qu'il a fait n'est pas oublié, qu'il y a suffisamment de monde parmi ceux qui sont encore vivants pour porter ce qu'il a fait.
Oui, Alexeï n'est plus avec nous, mais son travail, lui, vit toujours et nous devons le continuer.
Un an après sa mort, la Russie garde le nom d'Alexeï Navalny inscrit au registre des personnalités terroristes et extrémistes. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Le suspect de l'attaque au couteau samedi en Autriche avait prêté allégeance à l'État islamique. Déclaration ce dimanche du ministre autrichien de l'Intérieur lors d'un point presse à Villars, commune du sud du pays où s'est produit l'attaque. Un adolescent de 14 ans est décédé. L'auteur présumé est un Syrien de 23 ans qui s'est radicalisé en ligne en peu de temps. Et suite et fin de la 22e journée de Ligue 1, il faisait bon jouer à l'extérieur ce dimanche. Toutes les équipes en déplacement l'ont emporté, à l'image de Lille, Strasbourg, Angers, Lyon ou encore Nice. Les Niçois qui retrouvent le podium après leur succès sur les Havrais. Nuit d'étoiles ce dimanche aux États-Unis. Les meilleurs basketteurs de la planète sont tous réunis à San Francisco. Comme chaque année à cette période de la saison, la NBA organise son All-Star Game, un match de gala qui récompense 12 joueurs de chaque conférence. Est et Ouest, sélectionnés par les fans, joueurs, les journalistes et les entraîneurs. Mais cette fois, la Ligue nord-américaine a décidé de changer de formule. Victor Missistrano, objectif, relancer l'intérêt pour l'événement.
L'an dernier, à Indianapolis, la soirée avait encore tourné à la parodie de basket. Une victoire de la conférence Est sur le score invraisemblable et record de 211 à 186. Aucune intensité, pas de défense, il y a urgence à réinventer un format qui n'intéresse plus grand monde. Sans enjeu, au milieu d'une saison éreintante de 82 matchs, les joueurs n'ont aucun intérêt à se fatiguer. Alors cette fois, ils seront séparés en 3 équipes de 8, en plus d'une équipe de jeunes espoirs. Un mini-tournoi donc, où le premier à 40 points gagne le match. Président des opérations de la NBA, Byron Sprell, espère un All-Star Game plus disputé.
Il faut être un peu plus innovant, créer un nouveau format. Les gars doivent vraiment l'adopter. Il faut être à leur écoute. Ils veulent un temps de jeu plus court et je pense que ce mini-tournoi va le permettre.
Afin d'augmenter la motivation, un système de primes a été instauré. Chacun des vainqueurs touchera 125 000 dollars. Pour sa première participation, le français Victor Wembanyama figure dans une équipe très internationale. À ses côtés, entre autres, le serbe Nikola Jokic, le canadien Shai Gilgeous-Alexander ou encore le camerounais Pascal Siakam. De quoi espérer un beau bras de fer avec l'équipe de l'américain LeBron James. Pour sa part, Wemby ne compte pas faire de la figuration. Il a déjà prévenu, c'est un déplacement professionnel. Je n'ai aucune envie de m'y faire des amis.
Victor Missistrano, service des sports et le début de ce All-Star Game, eh bien c'est un peu après une heure temps universel. Et puis, au BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma, Conclave et The Brutalist ont dominé les débats en remportant chacun 4 trophées. Tandis qu'Emilia Pérez, au centre des polémiques, en a récolté 2 RFI. Il est minuit 10 à Paris, une heure de moins en temps universel.